LOL pour passer une belle journée avec Yann, Martin et Véro Racine. Samedi et dimanche, 6h. Radio X.
Le show du matin week-end. Une présentation du nouveau centre d'occasion Le Prix du Gros à Québec. Avec plus de 1200 véhicules en inventaire. Ouvert le samedi de 9h à 15h. Rue Marais, voisin du Renault Dépôt.
Ce soir, Pittsburgh est à Boston. Les Penguins tirent de l'arrière 3-2 avec un peu plus de 2 minutes à faire avant la fin du match. Sinon, ça va très bien pour les Blue Jackets. C'est 6-0 en leur faveur. Ils se mesurent ce soir aux Maple Leafs de Toronto. Les Flyers de Philadelphie rendent visite aux Panthers de la Floride. C'est 2-0 en faveur de la Floride. Également, les Blues de Saint-Louis accueillent ce soir le Wild. C'est 2-0 actuellement en faveur des Blues. Une rencontre qui s'est terminée il y a seulement quelques minutes entre Winnipeg et le New Jersey. Les Jets l'ont emporté par la marque de 3-1. Dans la NFL, San Francisco affronte Washington. Les Niners ont pris les devants 10-0. Le deuxième quart est en cours.
Le show avec Mario Tremblay.
Radio.
Il est 21h33 minutes lundi soir, c'est le 25 novembre. On parle d'immigration et d'intégration ce soir au show tard. Nous, on est là jusqu'à minuit, jusqu'aux alentours de 23h, on parle de ce sujet avec nos invités. On va parler maintenant avec M. Richard Dion, qui est professeur de francisation pour le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles au Cégep de Sainte-Foy. Bonsoir, M. Dion.
Bonsoir, Mario. Bonsoir à vos invités.
Vous allez bien?
Très bien. Un plaisir de participer à une émission que j'écoute presque religieusement tous les soirs.
Ben oui, j'ai cru comprendre ça. C'est bien gentil. À quel moment du processus vous intervenez, M. Dion, quand un immigrant arrive ici?
Ben nous, on les reçoit. C'est drôle parce que j'écoutais Virginie parler, parce que beaucoup de nos étudiants vont ensuite étudier à Louis-Joliette. Alors nous, on les reçoit, moi depuis 2 ans, disons que j'ai presque essentiellement des étudiants népalais, en fait, qui viennent du Bhoutan, des réfugiés.
Okay.
Et nous, on les reçoit, moi, les étudiants que j'ai eus depuis 2 ans, c'est des étudiants débutants. Et très peu scolarisé, parce que c'est important cette distinction là entre les immigrants scolarisés, là qu'on appelle l'immigrant économique, et les réfugiés. Il y a une grande distinction à faire, et puis quant à leur intégration aussi, c'est particulièrement difficile. Mais j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années à l'Université Laval, où j'enseignais le français, mais à ce moment-là c'était pas des immigrants, mais on pourrait dire des immigrants temporaires, des gens qui étaient ici pour compléter des études et tout. Et la dynamique est très différente. Et la facilité d'intégration aussi est quand même considérable.
OK, mais les immigrants arrivent ici. Est-ce que dès le départ, on les oblige à suivre ces cours-là ou...
C'est que, par exemple, dans le cas des réfugiés ou des autres, ils ont à peu près pas le choix, parce qu'il y a une grande différence entre arriver à Montréal et arriver à Québec. On sait très bien que quand ils viennent ici, évidemment, la nécessité d'apprendre le français et de le connaître est beaucoup plus grande. Alors, nécessairement, quand ils viennent ici, oui, ils ont suivi des cours. C'est une année où ils reçoivent, dans le cas des réfugiés, où ils reçoivent des prestations là, pour veiller à leurs besoins quotidiens, besoins de logement et tout ça. Donc, ils ont une année de francisation à faire, et beaucoup ensuite vont soit à Louis-Joliette ou dans d'autres centres, commissions scolaires qui donnent des cours de francisation aussi.
Est-ce que je comprends que c'est pas obligatoire à Montréal, ça?
Faut distinguer. Ils doivent le faire à Montréal aussi, mais ce que je veux dire, moi je parlais au niveau de leur intégration, puis de la nécessité d'apprendre la langue. Le fait qu'ils soient à Québec, évidemment, ça rend leur intégration
en fait c'est nécessaire à Québec.
Oui, tout à fait.
OK, à Montréal on peut vivre sans là.
Ben c'est parce qu'il y en a qui arrivent à Montréal, vont suivre des cours de français, mais peuvent s'en sortir autrement, disons, qu'en apprenant la langue. Là. La nécessité est plus grande à Québec, je crois. En fait, c'est mon humble avis.
Comme le disait Virginie tantôt, je crois comprendre que vous le constatez aussi, il y a des vagues. Là, vous me parlez de Népalais, il y en a beaucoup présentement, là.
Il y en a beaucoup. On en attend d'ailleurs, là, semble-t-il, au mois de janvier, là, une vague d'une 150, je crois, qui vont arriver. Mais ça, c'est des ententes hein, avec la Convention de Genève et tout. Donc, c'est par le gouvernement canadien. Bon, ils sont répartis un petit peu partout dans les provinces, mais surtout... Mais effectivement, au Québec, on disait la part du Québec, je regardais en pourcentage, là, la part du Québec est quand même considérable. On parle, par rapport au Canada, là, à 21%, 20%. 5% là, de 2008 à 2012. Alors, c'est une part importante que d'étudiants, que d'immigrants, pardon, que le Québec reçoit.
OK. Là, ce soir, je parle avec des gens qui connaissent ça, en tout cas, au moins deux personnes qui connaissent ça. Moi, je connais pas ça. Quelqu'un qui vient ici, qui veut immigrer, qui est un immigrant économique, par exemple, mais qui parle plus ou moins français, est-ce que c'est possible pour lui? Est-ce qu'on va l'aider à apprendre la langue?
Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Les cours sont pas seulement pour les réfugiés, mais c'est les cours sont faits pour tous les immigrants. Puis évidemment, la facilité d'apprendre, c'est parce qu'on parlait de langue. Moi, j'ai eu beaucoup d'étudiants mexicains. Évidemment, la facilité tient à plusieurs facteurs. Bon, il y a le facteur langue. Évidemment, on s'entend que pour les étudiants hispanophones ou les étudiants qui parlent portugais, par exemple, ben il y a une plus grande facilité au départ. Moi, j'ai eu des étudiants chinois, mais même le népalais, le népali, en fait, la langue, c'est le népali. Évidemment, là, la distance est encore plus grande. Alors, il y a une difficulté qui se rajoute due à la parenté des langues. Alors, la plupart, en fait, tous ceux que... Parce qu'on a, même dans les étudiants scolarisés qui viennent, par exemple, des pays d'Amérique du Sud, la plupart, effectivement, prennent des cours de français, même les scolarisés. Là, oui.
C'est parce que là, vous m'interpellez, là, vous parlez de chinois. Là. Est-ce que c'est aussi difficile pour un chinois d'apprendre le français qu'un français apprendre le chinois? Ben, le cantonais, en fait, là. Oui.
Mais c'est deux mondes, hein. Je me souviens parce que ça, c'était à l'époque où j'étais à l'Université Laval. J'avais quatre jeunes étudiantes chinoises qui faisaient un doctorat, là. Alors, c'est des gens très, très scolarisés. Et à un moment donné, bon, je leur fais faire des travaux. Puis là, je me suis attardé à leur dictionnaire à un moment donné. C'est un autre monde, hein. Et c'est pas juste une question de langue, hein, parce que c'est pas juste apprendre des mots, mais c'est apprendre une autre façon de dire les choses et de nommer les choses parce que il y a un phénomène culturel qui intervient. On nomme pas les choses de la même manière. Je sais pas, moi, par exemple, en chinois, il y a des choses qu'on fait pas, on remercie pas dans telle circonstance, on fait pas
dans
telle autre. Souvent, je me rendais compte, ce n'était pas qu'ils ne comprenaient pas ce que je leur enseignais en termes de langue,
ouais.
Mais c'était que dans le contexte culturel d'où ils venaient, ça n'avait pas de sens.
Alors, ils comprenaient les mots, mais eux, ils utilisent pas de la même façon.
Voilà, dans leur culture. Alors, ça se faisait pas. Alors, et il s'agissait, comme prof aussi, il s'agit de voir à un moment donné, et même avec les étudiants népalais, c'est la même chose. Ce qu'ils ne comprennent pas, à un moment donné, c'est pas nécessairement le sens des mots, mais pourquoi on le dit dans ce contexte-là, alors que dans leur culture, on le fait pas. Et ça, c'est une dimension importante, hein. C'est ça, apprendre une langue, c'est une autre façon de nommer les choses, puis d'apprendre aussi comment on les dit dans la nouvelle société ou dans le nouveau milieu culturel où on vit, où on est.
J'en ai pas parlé pour les parents de nous inviter ce soir, mais vous êtes en mesure de me répondre à ça. Quand arrive une famille d'immigrants, par exemple, j'imagine que c'est pas cliché de dire que plus ils sont jeunes, plus ils apprennent facilement. Quand c'est des parents qui arrivent ou même des grands-parents, ça doit pas être évident, là.
Non, c'est beaucoup plus comme Virginie le disait tout à l'heure, c'est certain que c'est pas tant que leur motivation n'est pas là. C'est qu'ils ont beaucoup moins de stratégies et beaucoup d'entre eux, et évidemment, moins ils sont scolarisés, moins ils ont de stratégies. Alors, c'est pas la motivation qui leur manque comme les moyens de s'intégrer. Mais
il y a capacité d'apprentissage, j'imagine aussi, rendu à un certain âge, c'est plus difficile?
Oui, c'est plus difficile. Et quand on n'a jamais appris dans sa propre langue non plus, on n'a pas les stratégies qu'il faut. Mais juste une petite anecdote, à chaque année... au Cégep, on organise une petite fête de la Saint-Jean-Baptiste où on va sur les plaines d'Abraham, tous les étudiants viennent et tout. Et l'année dernière, ou il y a deux ans, il y avait un homme, un Népalais, qui avait à peu près, je dirais, entre 75 et 80 ans, à peu près. Et c'était de toute beauté, parce qu'on a gardé des photos de ça. Alors, on fait la petite fête sur les plaines, il y a des jeux et tout. Et pendant toute la durée de l'activité, il a tenu le drapeau du Québec au bout de ses bras. C'était de toutes les beautés de voir ça. Alors, il y a un désir chez eux de s'intégrer, mais la distance culturelle fait en sorte parfois que ça rend les choses un peu plus difficiles. Mais comme par exemple, je parle toujours des Népalais parce que là, j'ai vécu, je leur enseigne depuis deux ans.
Ouais.
Et on dit, bon, ils s'intègrent pas, ils travaillent pas. Moi, cet été, moi, j'habite à Saint-Nicolas sur la Rive-Sud. Je vais souvent rouler à vélo, puis à un moment donné, en revenant de vélo sur le chemin Saint-Joseph, le chemin Laurent où il y a des fraises, des chanteraises et tout, je vois cette bande-là de petits, moi je les appelle mes boutonnets, je les appelle les petits bouts en train. Alors je vois toute cette bande-là qui sont là, puis là ils me crient professeur, 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 et là j'arrête. Et ils travaillent beaucoup, alors et ils étaient là à travailler pendant l'été et tout. Alors on fait beaucoup d'efforts à les intégrer au marché du travail. Et puis évidemment ceux qui sont moins scolarisés, il faut viser des emplois là qui correspondent à leurs intérêts, à leur champ de compétences, qui est en général lié à l'agriculture pour beaucoup d'entre eux.
Mais là, vous m'ouvrez une porte. Là, je sais que c'est pas votre spécialité en principe, puis on va en parler avec nos invités tantôt également. Là, mais les fameux problèmes d'équivalence, là, c'est-à-dire les gens qui arrivent ici avec un emploi, le fameux pattern, le stéréotype là, du médecin qui arrive, c'est peut-être pas un bon exemple parce que là, on me dit que les médecins ici, que ça commence à être un petit peu plus facile. Mais je sais pas, le
architecte
au hasard qui devient chauffeur de taxi, là, c'est ouais. Triste. Ça.
Bon, ben alors là, j'ai une autre anecdote, puis elle est personnelle. L'année dernière, j'ai dû me rendre...
Pas vous êtes allé chauffer le taxi au Népal.
Non, mais j'ai dû me rendre... Moi, j'ai eu beaucoup d'étudiants colombiens. J'aime beaucoup les étudiants d'Amérique latine. La chaleur de ce pays-là et de ces gens-là et tout. Alors, je me retrouve à l'hôpital pour passer une échographie de la jambe, enfin. Et là, la jeune dame arrive, la radiologue, et c'est une Colombienne. Alors là, j'en revenais pas. J'ai tellement eu d'étudiants. Puis elle était gentille comme tout. Bon, ben j'ai dit tout ce que j'ai fait de bien pour la Colombie va me revenir. Et là, elle me raconte son histoire. Elle était radiologiste dans son pays, radiologue dans son pays. Elle a dû refaire tout une deuxième fois quand elle est venue ici. Alors c'est ce que j'en sais, c'est que on ne reconnaît pas ou enfin ils ont à suivre des cours et des cours et des cours, ce qui équivaut à peu près à la formation qu'ils ont dû suivre dans leur pays. Alors je sais pas si
c'est sûr qu'on peut le comprendre là. Faudrait voir les secteurs probablement là, parce qu'on comprend que dans des pays là, on n'a pas la même façon d'opérer opérer dans le sens général, non pas dans le sens médical là, d'opérer dans certains corps de métier. Mais c'est sûr qu'on a eu l'impression souvent qu'il y avait des ordres professionnels qui étaient plutôt fermés, entre autres les médecins. Mais là, comme je le disais tantôt, on pense que c'est en train de se régler là, et on est en train de faciliter les choses là, parce que la médecine, c'est sûr qu'elle est différente d'un pays à l'autre, mais il y a quand même beaucoup de points communs là.
Oh oui, tout à fait. Mais elle avait dû refaire tout au complet. C'était un équivalent. Et son mari aussi, d'ailleurs, était chirurgien, je crois. Il avait dû refaire à peu près tout. Mais enfin, ça, c'est pas ma spécialité. Là, mais...
Monsieur Dion, merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir et puis une bonne émission. Je vais continuer à vous écouter.
Bonne fin de soirée.
Bonne fin de soirée, merci.
Je vais demander donc à nos deux invités ici, dans le cas de Regina, tes parents, est-ce qu'ils pratiquent le métier qu'ils avaient au Mexique, ici?
Ma mère est architecte et elle ne peut pas travailler maintenant, elle étudie.
Elle étudie?
Oui.
Elle veut être architecte ici aussi, au Québec?
Mais elle pense que c'est... qu'elle est trop vieille pour
pour
faire ça.
Ta mère va pas être très vieille quand même.
Non, elle est pas vieille, mais elle dit que
pour toi elle est vieille.
Ma mère t'écoute l'original.
Ma tobella. Non, mais ma mère, elle pense qu'elle a déjà fait les choses d'architecte dans son pays, alors qu'elle voudrait peut-être commencer une autre chose nouveau.
Ah ouais. Dans ton cas, Carlos.
Oui, mes deux parents sont des ingénieurs et malheureusement ils peuvent pas l'exercer. Ici.
Qu'est-ce qu'il doit faire?
Des équivalences qui coûtent.
Mais dans ton cas, il y a une demande d'asile. Ça change des choses. Il pourrait pas vraiment suivre des cours présentement?
Quand t'es demandeur d'asile, la seule formation que tu peux faire, c'est francisation. Okay. Donc, les quatre membres de la famille de Carlos ont atteint le niveau maximum d'études qu'ils pouvaient faire. Ils sont tous excellents en français. Donc là, pour l'instant, ce qu'ils peuvent faire, c'est travailler. Donc Carlos, lui, il aimerait, par exemple, aller à l'université, mais là... C'est pas possible pour l'instant.
Normalement, c'est dans un délai de 2 ans, tu disais. Bon, ça, vous autres, ça fait plus que 2 ans, la demande d'asile, hein?
Ben oui, ou un mois.
Ouais.
2 ans et un mois.
Ça, c'est stressant, parce
c'est
que
difficile.
Quand t'apprends à t'intégrer, on a déjà vu des cas comme ça, là, dans les médias, t'apprends à t'intégrer, puis t'apprends la mauvaise nouvelle que t'es pas accepté, ta demande d'asile est pas acceptée, c'est tough.
Oui, non, vraiment, tu sais, Carlos...
Quand tu t'intègres comme ces gens-là, par exemple.
Elle parle à parler français, développe un réseau, développe des projets. Carlos, il fait du bénévolat. En ce moment, il est bénévole dans un club de course, il est entraîneur une fois par semaine, tu sais, il veut s'investir, puis il s'implique dans la communauté. Puis c'est sûr que du jour au lendemain, là, il faut s'attendre à ce que ça se termine ou pas.
Il y a un auditeur, Marco, qui dit « Est-ce qu'il y a autant de Carlos en Amérique du Sud que de Tremblay ou Saguenay? » Est-ce qu'il y a beaucoup de Carlos?
C'est possible.
On pense que oui, hein? Oui, il y en a pas mal. Dans le cas d'un Français, David, est-ce que les équivalences professionnelles, c'est plus facile? Parce que je pense qu'il y a des ententes entre le Québec et la France. Hein. On a vu, entre autres, beaucoup d'infirmières québécoises s'en allant en France.
Les équivalences sont plus faciles. Ben, peut-être pas trop au niveau de la médecine et des infirmières, mais c'est en train d'évoluer, comme vous le dites. Là. Mm-hmm. Mais moi, par exemple, j'avais un diplôme en France. Et ça m'a correspondu à 3 diplômes ici, en fait. Donc,
ça n'a pas causé de problème.
Ça n'a pas causé de pantoute de problème.
Ouais. Pantoute, ça fait partie de votre vocabulaire.
Oui, de québéquisation.
OK. Bon, d'ailleurs, tantôt, on va en parler là, vers 22h avec quelqu'un qui a vécu une expérience et qui le vit toujours. Il a dû faire des choix assez difficiles parce que ses compétences n'ont pas été reconnues, en fait, ici au Québec. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile au Québec, ou qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile au Québec depuis que vous êtes ici, là? C'est-tu la famille qui est loin, les amis,
la
party
famille,
time?
Oui, non, la famille. La famille qui est loin, que quelquefois c'est la fête de mes grands-pères ou de mon père, comme ça. Mais l'hiver aussi, il est froid.
Ah ouais?
Oui.
T'as de la difficulté avec l'hiver, ouais?
Oui.
Encore? Encore aujourd'hui, ouais?
Oui, encore. Ouais. Je pense que je vais
Tu voulais donner reine du carnaval?
Oui.
Quel paradoxe.
Ben, c'est difficile, mais tu peux trouver le joyeux de l'hiver.
Ouais.
Quand même, on peut s'amuser, mais il fait froid.
Ouais. Il faut dire que le dernier hiver, Regina est retournée au Mexique.
Regina.
Pardon. Du coup, là, je pense que là, la vraie intégration, là, ça va être cet hiver pour Regina. Là,
oui. OK, t'étais pas là l'hiver dernier.
Ben, elle est retournée temporairement au Mexique.
OK,
là,
t'as vécu un hiver, en fait, ici.
Oui.
OK, là, tu vas vivre ce soir, là, il fait pas chaud. Là. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'apprécies la température présentement?
Mais Mario, est-ce que t'apprécies la température présentement?
Pas en tout. Non, non, mais c'est ça. Déculpabilisez-vous de ça, là. Si vous aimez pas ça, vous êtes pas tout seul. Il y a bien des Québécois qui aiment pas ça. Mais ça a l'air, tu sais, on nous dit toujours, quand vous voulez faire l'apprentissage de l'hiver, ben pratiquer des sports, faites du ski, puis je suis certain que c'est la façon de voir de Virginie. Dans ton cas, Carlos, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? C'est sûr que vous autres, vous êtes en demande d'asile. Fait que j'imagine que l'attente doit être difficile.
OK, oui. Oui, ça c'est stressant comme chaque jour.
Ouais.
Pour moi, le plus difficile, c'était les premiers jours, avant d'aller à l'école. Ouais, c'était ça le plus difficile.
Pourquoi?
Parce qu'on connaissait personne, et c'est arrivé. Au moins, les gens ici sont pas racistes du tout, je trouve. Mais t'étais tout seul, sans ta langue, tes amis.
Ouais.
Mais c'était juste ça.
Et ça s'est bien passé, la première journée?
Oui, super.
Mm-hmm. Est-ce que t'étais le seul immigrant? Parce que ça doit jouer aussi. Quand t'arrives dans un endroit, par exemple, où t'es le seul immigrant, la seule personne différente, que c'est visible, ça doit peut-être être plus difficile. Toi, est-ce que t'étais seul immigrant? Non, j'imagine, dans ton secteur, dans ton école? Ben là, t'étais en francisation,
oui.
En fait. Non. Ouais.
Non, c'est ça.
Ouais, OK, ouais, c'est vrai, t'es pas allé à l'école normale, comme on dit, en fait. Là. Valérie nous écrit, en passant, oui, vous pouvez nous écrire au live@commercialradiox.com. Valérie a dit, bonsoir, très belle émission ce soir, voici ma petite question. Je voulais savoir si notre intolérance, si on veut, envers les immigrants est due au fait qu'on se bat depuis des années pour notre langue et notre culture. Aussi, j'entends souvent dire que les immigrants ont beaucoup d'aide pour se trouver des logements et du travail. Est-ce vrai? Ben, dans un premier temps, je pense qu'on a un peu répondu à ça tantôt en disant qu'on n'était pas particulièrement intolérant. Vous avez de même dit qu'on était peut-être trop tolérant de temps en temps.
Oui, c'est
mais c'est un français, ça vaut ce que ça vaut. quand vous voyez mais c'est parce que la situation, parce que tu sais, tantôt, on a fait un petit aparté, là, avec la charte, mais je pense que la situation n'est pas la même non plus en France, là. Il y a beaucoup d'immigrants en France, là. Beaucoup à Paris particulièrement, là. Et ça brasse fort à Paris aussi, là.
Aussi, ouais.
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'aide, effectivement, pour les logements, le travail?
En fait,
ça touche
tout,
peut-être moins, là, toi?
Oui, c'est ça. C'est pas mon domaine, mais je crois observer, là, tu sais, au sein de l'école, par exemple, il y a un conseiller d'orientation qui est attitré comme particulièrement pour les nouveaux arrivants.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, c'est une personne qui, comme Monsieur Dion disait là au téléphone tout à l'heure, ben, qui, selon le champ de compétences, selon les forces et les faiblesses de cet individu-là, et tout dépendant les intérêts et les aptitudes à être capable d'aller sur le marché du travail, parce qu'il y a des élèves qui manifestent un intérêt plus grand de vite passer l'autre bord du banc d'école. Bon, ben là, il va y avoir peut-être un accueil, puis, mais tu sais, il y a pas... c'est loin d'être tout cuit dans le bec, là. Au niveau du logement, ben, ça dépend vraiment de ton statut. C'est sûr que quand t'es réfugié politique, on s'assure que t'as un endroit où dormir. Puis, ben, on s'assure qu'il y a une allocation de base dans un certain temps défini, là. Le temps que t'arrives, que tu sais que t'aies une intégration, que t'apprennes le français. Donc, je pense que ça dépend vraiment là, du statut.
Mais tu parles de réfugiés politiques. La façon de travailler pour vous autres avec des réfugiés politiques, ça doit être différent. Ces gens-là doivent arriver dans un autre état d'esprit complètement.
Oui, exactement.
Ils l'ont pas vraiment choisi.
Non,
là.
C'est exactement ça. T'sais, un immigrant économique, qui a, t'sais, comme David, il dit, on en a parlé à la maison, on a analysé ça, c'était un choix consentant. Alors qu'un réfugié politique, souvent, là, le Québec, là, il s'est même... Tu sais, il a aucune idée. Ben, en fait, il a jamais vu une carte géographique de sa vie, parfois, tu sais. Ouais. Et, ben, du coup, ben, c'est sûr qu'il y a pas la même ouverture. Puis, ben, c'est ça qu'on fait à Motivation Jeunesse. C'est on sème des graines. Puis, on essaie de leur offrir des opportunités.
Mais dans quel état d'esprit ils arrivent? Est-ce que tu as vu des gens, des fois, arriver vraiment, là, tu sais, dans leur bulle, là, puis se demander un peu ce qu'ils faisaient ici?
Ouais,
puis...
ouais. Comme, ça arrive vraiment.
C'est difficile d'approche, là?
Ben, pas difficile. Ben, des fois, il y a aucune communication possible.
Ouais, aussi,
là.
Ouais.
Fait que c'est difficile d'avoir une approche, tu sais. Mais on sème des graines, puis je pense qu'il faut s'adapter à chaque personne. Puis je pense qu'il y a beaucoup de peur des deux côtés. Puis c'est quand tu brises la peur, puis le loisir, là, on dira jamais assez, le loisir, là, c'est un outil béton pour créer un lien là de communication internationale. Donc, du coup, ben je pense que oui, il y a des gens qui sont fermés, il y a des gens... Mais, tu sais, petit train va loin.
Tout à l'heure, t'as l'air de gens patients, toi.
Qu'est-ce que vous pensez de notre façon de vivre en général? Je suis jamais allée au Mexique, je suis jamais allée en France non plus, mais dans certaines cultures, on travaille pas au même rythme ou on n'a pas les mêmes habitudes de travail. Est-ce que c'est différent? Peut-être plus au Mexique qu'il y aurait des différences?
Qu'est-ce qui est plus différent ici, en fait, dans la façon de vivre?
Vous vous couchez trop tôt, je pense.
Ah oui?
Oui, oui, oui.
Explique-nous ça, là. Pourquoi tu te couches à quelle heure au Mexique? Vous vous couchez à quelle heure au Mexique, normalement? Là?
Ben, plus tard. Pour moi, c'était un petit choc culturel que même le bar, il fermait tôt. Ouais, pour moi.
À 3 heures? 3 heures le matin, c'est trop tôt.
Oui.
Ouais.
La ferme pas chez vous, c'est 24 heures, c'est quoi?
Ouais, souvent, il y a toujours un dépanneur 24 heures.
Ici aussi, c'est juste qu'il n'y a pas de boisson 24
heures. Même le centre commercial, il ferme
5 heures.
Hein? Mais, non, tu sors de l'école, tu vas à la maison. Tu veux aller au centre commercial.
Ok, toi, c'est party time et magasinage, shopping.
Non, comme, c'est pas seulement ça, mais.
Ok, est-ce que tu es en train de me dire, comme Carlos, que tu trouves que les bars ferment trop tôt?
Ça, c'est vrai.
Ah, ouais.
Mais je pense qu'il parle aussi des restaurants.
Ouais,
je pense
qu'il parle de
la vie. Là,
mais quand même aussi, pour moi, c'est difficile l'heure de manger. Comme c'est trop tard.
Okay.
Moi, normalement, tu viens de l'école, tu finis à 2h30, tu vas manger à 3h. Mais ici, tu vas manger 6h, 7h.
À part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous...
La nourriture, ça doit être différent?
Oui.
Est-ce que vous aimez ça?
Pour moi, non.
Une bonne poutine. Est-ce que t'aimes ça, une poutine?
Oui, j'adore le poutine.
Bon, ouais.
Mais j'adore le poutine, mais j'aime la nourriture mexicaine me manque.
Donc, le Mexicain qui est vendu au Québec, c'est pas du bon Mexicain, c'est ça que je comprends. C'est pas bon. La cuisine mexicaine qu'on peut manger au Québec, est-ce que c'est représentatif de la vraie cuisine mexicaine? Dites-le.
Pas tout le temps. Il y en a des fois.
Ouais.
Moi, je trouvais la nourriture mexicaine originale, comme authentique ici. Mais c'est pas tout le temps.
Parce que c'est vrai que c'est une des premières choses qu'on peut remarquer quand on vit à l'extérieur, quand on va à l'extérieur. On est tellement habitué à, tu sais, nos habitudes alimentaires, là. Ouais. Fait que dans ton cas, David, je sais pas, là. Poutine, David?
Ah, j'adore ça, la poutine.
Ah oui?
Je mangerais 5 fois par semaine.
C'est
comme
moi.
C'est
bon. C'est ça que je fais. Regarde ce que j'ai de l'air.
Oui, moi aussi.
Toi, dans ton cas, c'est quoi? As-tu des déceptions comme français au Québec?
Ça me fait penser que là, je suis aussi blogueur. Je fais quelques blogs de temps en temps sur le site immigré.com, là.
OK.
Et mon dernier blog parlait justement de nourriture française versus la nourriture québécoise. Où je ne critiquais pas, mais je faisais une constatation. Et on m'a dit, oui, tu viens au Québec, puis tout ce qui est au Québec, c'est dégueulasse. Pardon de dire ça, là, mais c'est pas bon.
C'est ce qu'on te prêtait comme propos, c'est ça?
Ouais, ouais, mais quand je regardais les commentaires, c'était surtout des Français qui avaient jamais mis les pieds au Québec. Mmh. Donc, ils savaient pas de quoi ils parlaient. Mais c'est vrai que, comme je disais sur mon blog, des fois, j'ai des petites envies de produits français que j'arrive pas à trouver ici, mais c'est tellement minime que...
Moi, tu vois, la cuisine française, ça m'attire tellement pas, là. Je la trouve, excuse-moi, là, je la trouve écœurante de loin.
Ça grâce, va... peut-être.
Ah, le fouet, puis les ouets, puis je sais pas trop quoi, non, ça me dit rien. Mais ceci dit, avec tout le respect, je préfère la poutine.
Mais là, on a vu, par exemple, au niveau des fromages québécois, qui rivalisaient beaucoup avec nos fromages à nous, français, là, ouais. Ils arrivaient premiers souvent dans des concours, ouais. Donc non, je pense que le Québec est.
Mais moi, ce que je pense, David, pour avoir vécu en France, c'est puis avoir vraiment là.
Ah, c'est ça l'accent.
Question,
ok, c'est bon.
C'est que je pense que le français va essayer de chercher les aliments, mais à des endroits où ils pensent le trouver. En France, admettons, chaque épicerie du coin de la rue, on retrouve les petites charcuteries, les petits fromages est ici. Du exact. Coup, lorsqu'il arrive à Québec, il va faire la même affaire, il va arriver au IGA, puis il va vivre une déception. Puis parce qu'il va pas trouver dans ces lieux-là les produits.
Alors qu'au
spécialisés. Québec, les produits spécialisés. Alors qu'au Québec, il y en a des produits spécialisés.
Oui.
Mais on est vraiment une population beaucoup plus petite. Et du coup, c'est souvent beaucoup plus artisanal. Il y a moins d'échantillons. Et ça se trouve dans d'autres lieux que vous pensez pas. Parce que pour vous, ben, je vais au supermarché. Ça, je comprends pas pourquoi la salade est dégueulasse. Ouais, ben, si tu vas à telle place ou si, tu sais. Fait que c'est comme de trouver les produits.
T'apprends à magasiner ici.
Ouais, c'est ça.
Que chez nous, tout est aux mêmes places, comme tu dis.
Ouais, c'est ça.
On prend, on sert, puis voilà.
Mais en même temps, il faut pas généraliser. Quand vous parlez, par exemple, des bars là, qui ferment... ils ferment-tu au Mexique, là? C'est ça que je comprends.
Carlos, il vient de Cancun, en plus. Là.
Il vient de Cancun, oui. Ah ouais?
Ouais.
Donc, les bars, c'est jusqu'à 6 heures le matin, quoi?
Souvent, ouais.
L'expression open bar a jamais été aussi exacte. Mais en même temps, faut faire attention. J'imagine que c'est dans les grands centres, là. Je veux dire, dans des petites villes mexicaines. Est-ce que les bars, puis les épiceries, puis c'est ouvert... Oui.
Oui.
Ah oui?
Oui. Uh-huh. Et même, moi, je viens pas de Cancun, je viens de Querétaro. Mais quand même...
D'où?
Querétaro.
OK.
C'est une ville qui est près de...
Je le dire plus lentement.
Querétaro.
Je comprends pas pareil. Mais c'est pas loin de Mexico, hein?
Non, c'est à 1 heure et demie.
OK. Comment on prononce Mexico à la Mexique? Mexico, c'est ça?
Mexico.
Mexico, OK, Mexico. C'est ça. Fait que, ah oui, c'est donc que tu peux trouver retrouver des bars là, ouverts jusqu'à 6 heures le matin dans n'importe quelle ville au Mexique. Et ça vous manque si.
Ben non, comme c'est correct, mais
je pense que la vie de nuit vous manque, de sortir juste marcher, arrêter, manger un petit truc à 10 heures, je l'entends souvent.
Tacos.
Moi. Ben, même en France là, j'imagine, tu sais, les restaurants doivent pas toujours être
Non, c'est ils ferment de bonne heure ici aussi, mais je trouve ici que si tu as faim à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu peux trouver à manger n'importe où que tu sois. Ici au Québec, là, tu vas n'importe où, tu trouves toujours à manger. Donc,
Mais si je te demande à toi la différence, la même question en fait que Zoé a posée à Carlos puis à Regina, la différence au quotidien, les différences au quotidien entre vivre au Québec puis vivre en France.
Ici au Québec,
ce que tu pourrais dire aux Français qui veulent venir ici pour les avertir, dans le bon puis dans le négatif, les deux.
Là. En négatif, non. Mais ici, on prend le temps de prendre son temps.
Ça, c'est drôle, hein? On n'a pas cette pression-là quand on vient ici. On vit ici. Là.
Ici, on court pas partout, comme en France.
Ou comme à Paris?
En France, en général. Moi, avant de venir, j'étais à Bordeaux. C'est une grande ville aussi. On court pas mal à droite, à gauche. Tandis qu'ici, on prend son temps, on se repose. Là, psychologiquement, on est aéré, quoi, en fait.
Remarque
c'est pour ça que beaucoup de monde veulent venir au Québec.
Ouais. Mais remarque qu'on fait souvent cette différence-là aussi entre Québec et Montréal, hein? Peut-être que pour Montréal, c'est relax pour un Parisien, mais pour quelqu'un de Québec, souvent, c'est un rythme de vie qui convient pas. Là. Ouais.
On peut dire que Montréal, c'est une copie conforme de Paris, en fait. C'est la même chose.
En plus accueillant, peut-être, plus amical.
Plus accueillant, oui, oui, oui.
Ouais. Oui. On va faire une pause. On a parlé beaucoup d'intégration au niveau du travail. Là, on va parler avec quelqu'un qui a vécu une expérience peut-être moins agréable, mais qui s'en est sorti très, très bien au retour de la pause. Il est 22h01. C'est le show tard du lundi, c'est le 25 novembre, à Radio X.
Le show tard avec Mario Tremblay. Mario Tremblay. Le show tard.
Radio X.
L'Extra 80.
Don't forget me when I'm gone.
In a western town, a dead end world.
sort le synthétiseur. L'Extra 80. Tout de suite après les gens du rock.
Radio X.
Grâce à clicassure.com, Guillaume de Québec, qui conduit une Impreza 2012, a reçu une offre lui permettant d'économiser 431$ sur son assurance auto. Vous voulez économiser vous aussi? Allez sur clicassure.com et prenez 5 minutes pour remplir le formulaire qui sera envoyé à plusieurs assureurs et courtiers. C'est maintenant eux qui devront vous convaincre de faire affaire avec eux. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous feront la meilleure offre possible. Économisez avec clicassure.com.
Hey boss, j'ai entendu dire...